Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h32.
Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce matin, notre invité au micro de la matinale est Victor Craignoux. Il est secrétaire régional des JAM Bretagne. Les JAM, entendez par là, les jeunes avec Macron. Il est venu spécialement de Rennes, je crois, pour être avec nous
Tout à fait.
Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, on va parler de politique, évidemment, comme on le fait chaque matin à cette heure-ci sur l'antenne de Bretagne 5. Contexte particulier, difficile. Je le disais en commençant, vous êtes secrétaire régional des jeunes avec Macron. Le président de la République fait face à un contexte difficile en ce moment.
Oui, tout à fait, un contexte de crise. Des crises qui se terminent, d'autres qui commencent, ça s'entremêle. Et il faut répondre à toutes ces crises et aussi à l'inquiétude qu'elles suscitent au sein de la population. Moi, j'ai confiance. Je vois un gouvernement à l'action, un gouvernement aussi lucide sur les mesures à prendre et là où il faut agir. Donc, et tout ça aussi dans un contexte politique et institutionnel particulier. Je ne dirais pas instable, mais inconfortable, certainement.
C'est cette majorité relative, toujours et encore.
Tout à fait, une majorité relative, mais une majorité quand même, qui impose par ailleurs de travailler davantage sur le fond, de prendre plus de temps peut-être au sein des commissions parlementaires, et de aussi prendre en compte les deux chambres du Parlement. On voit que le Sénat reprend son rôle, retrouve ses couleurs, et l'Assemblée fonctionne toujours quand même.
Voilà. Alors, on a ce contexte économique, on va en parler, on va en dire deux mots. Et puis, ce contexte social quelque peu explosif, il y a cette réforme de l'âge du départ à la retraite, cette réforme des retraites plus largement, qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite, sinon de la colère, en tout cas des interrogations. Et puis, ça arrive dans une séquence aussi après les 49-3 qui ont été un peu dégainés, si vous permettez le terme, par le gouvernement et par la première ministre Elisabeth Borne. Est-ce qu'il va falloir apaiser à un moment, expliquer, faire de la pédagogie?
Oui, bien sûr, évidemment, et je crois que le gouvernement le fait déjà par la voix de sa première ministre, mais aussi des différents ministres. Expliquer, je crois que c'est vraiment le terme à propos, expliquer pourquoi on fait cette réforme des retraites, parce qu'on arrive dans un contexte et la dynamique démographique du pays fait que dans quelques années, il y aura peut-être et certainement même davantage de retraités que d'actifs. Donc si on veut préserver et protéger ce système par répartition selon lequel les actifs payent les pensions des retraités, eh bien, il va falloir inévitablement augmenter le nombre d'actifs.
Par contre, ça a du mal à passer parce que beaucoup de gens estiment qu'il va falloir aller encore plus loin. Il y a aussi beaucoup de professions où les gens sont fatigués. Hein. On pense aux professions difficiles. On pourrait citer les maçons ou plus largement les professions du bâtiment qui ont du mal à comprendre qu'on va leur demander de travailler plus longtemps.
Mais voilà, et c'est absolument là qu'il faut. Il ne faut pas se focaliser non plus que sur l'âge de départ. D'ailleurs, la Première ministre l'a répété, ce n'est pas un totem. Il peut y avoir d'autres marges de manœuvre éventuellement. Mais cette réforme, elle est aussi nécessaire pour atteindre un système juste et équitable. Équitable pour, évidemment, arriver à bout de ce déficit dans lequel est plongé le système. Et puis juste parce que, évidemment, pourquoi certains devront travailler plus longtemps? Pour que d'autres puissent partir plus tôt aussi à la retraite. Et ces autres-là, ce sont les professions dites pénibles. Mmh. Et donc, il y aura tout un travail, évidemment, sur les critères de pénibilité. Ça va être l'objet des concertations avec les partenaires sociaux, notamment. Donc, il faut vraiment expliquer que, oui, on va travailler plus longtemps, mais on prendra mieux en compte les pénibilités pour que certains partent plus tôt à la retraite. C'est la justice.
Alors, on voit les syndicats un petit peu arc-boutés contre cette réforme. La CFDT, qui d'habitude est quand même plus encline à accepter ou en tout cas à discuter, à dialoguer. Là, on voit que la CFDT n'est pas du tout d'accord avec les mesures proposées. La CGT aussi qui promet un mois de janvier chaud. Alors, on ne fait pas référence à la météo, bien que. Est-ce que c'est de nature aussi à inquiéter ou en tout cas vous inquiéter, vous, jeune militant auprès d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter en vous disant, voilà, on risque de retrouver une séquence un petit peu comme les gilets jaunes?
Moi, ce qui m'inquiète particulièrement dans ce que vous venez de dire, c'est que les syndicats s'opposent, d'accord, ça c'est normal.
C'est leur rôle finalement.
Mais ils proposent quoi? Voilà, moi c'est ça qui m'inquiète. On pourrait en parler des heures de la représentativité des syndicats. Est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs de ceux qu'ils sont censés représenter? D'accord, soit peut-être que le 65 ans ou 64 ans ou toucher même à l'âge de la retraite, de départ à la retraite n'est pas le mieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On touche à la durée de cotisation, aux annuités. La première ministre a dit non, on n'ira pas au-delà des 43 années d'annuité, ce qui serait parfaitement injuste, puisque, et de fait, de toute façon, que cette réforme soit faite ou non, on va travailler plus longtemps. Si on maintient les 42-43 années d'annuité, une personne qui commence à travailler à 20 ans, effectivement, elle pourra partir à 62 ans, à taux plein, évidemment. Mais en France, aujourd'hui, par chance, on fait des études plus longtemps, donc les carrières commencent plus tard. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence à travailler à 24-25 ans, eh ben, 42 années d'annuité, ça l'amène à 67 ans. Donc, quelque part, il faut forcément passer par la réforme.
On entend aussi, j'allais dire, une petite musique quand on va un peu sur les marchés ou qu'on discute avec les citoyens. On entend souvent cette rhétorique qui tente à dire que, ben voilà, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent du travail, qui n'en trouvent pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre les jeunes au travail et faire partir les anciens, si vous me permettez le terme, en tout cas, les personnes qui ont fait leur carrière plus tôt?
Non, pas forcément. Pourquoi certains jeunes ne trouvent pas de boulot? Aussi parce qu'ils n'ont pas été peut-être bien orientés. On a souffert d'un manque cruel d'étudiants dans les filières professionnelles. Or, ce sont ces filières-là aujourd'hui qui recrutent. Donc il est évident que certains postes ne sont à pourvoir mais ne sont pas pourvus. Et des jeunes qui peut-être sont allés en masse vers les facultés ou l'université de manière générale, se retrouvent un peu dépourvus parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde dans ces milieux-là.
Il va falloir réformer, alors c'est aussi un grand serpent de mer, on parle de la réforme de l'enseignement supérieur également. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il faudra s'attaquer, alors réforme, j'allais presque dire casse-gueule, parce que beaucoup de ministres et de gouvernements s'y sont attelés, ça n'a pas toujours abouti. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il faudra aussi penser à réformer le système de l'éducation en France, réformer le système de la formation aussi en France?
Oui, tout à fait. Ça a été déjà entamé par la majorité de ces dernières années. La valorisation, je le disais, des filières professionnelles est indispensable. Le bac a été réformé également pour permettre aux élèves de se concentrer sur des matières spécifiques. Tout à fait. Il faut aussi surtout que le système éducatif soit adapté aux besoins. C'est ça le principal, à mon avis.
Des métiers vont disparaître, d'autres apparaissent. Beaucoup de métiers dans ce qu'on appelle la tech aujourd'hui. La France accuse un retard encore dans ces métiers de la tech. Retard qui a tendance à se combler quand même. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est là où il faut former aujourd'hui pour les métiers de demain? On pense aux développeurs, on pense à la cybersécurité aussi qui devient prégnante.
Bien sûr, c'est un exemple totalement très concret. Et surtout, il faut le dire, en France, on dispose des ressources nécessaires pour travailler dans ces domaines. On a des ingénieurs d'excellence, des écoles aussi d'excellence. Et donc, il faut bien sûr promouvoir ces filières. Il faut que les élèves n'aient pas peur, n'aient pas d'a priori à aller dans ces filières. Oui, tout à fait.
Alors on parle d'un autre contexte maintenant, le contexte, alors ça va rejoindre le contexte social quelque part, mais le contexte économique aussi. On a beaucoup entendu, et on en parlait ce matin sur notre antenne à 7h20 dans notre rendez-vous avec l'actualité avec Jean-Guillaume Daré, le délégué général du SDI, le syndicat des indépendants et des TPE, qui s'inquiète de la situation aujourd'hui des petites entreprises ou des très petites entreprises qui sont confrontées à une hausse sans précédent des coûts de l'énergie. De l'électricité en particulier, on pense aux boulangers, mais d'autres professions également. Est-ce que le gouvernement n'a pas réagi un peu tardivement?
Non, je crois pas. Je crois qu'il y a quelques mois, quand les premières mesures ont été annoncées pour faire face à cette inflation qui d'ailleurs stagne, du moins ne progresse pas davantage, les premières mesures ont été très générales. Elles s'appliquaient à tout le monde. On pense à la ristourne sur le carburant, c'était pour tout le monde, riche, pauvre, gros rouleur, petit rouleur, peu importe. Aujourd'hui, vous parliez des TPE, PME, le gouvernement s'intéresse particulièrement à ces entreprises, c'est parce que c'est là qu'il faut agir, c'est eux qu'il faut protéger. Vous parliez des boulangers, on peut citer le bouclier tarifaire, l'amortisseur sur les factures d'électricité. Donc tout ça vise à contenir la hausse des prix de l'électricité jusqu'à 15%, je crois. Et puis, c'est vrai que les boulangers, ça peut paraître symbolique, mais une TPE, c'est, enfin, les boulangers, ça représente quand même, je crois, 33 000 entreprises en France. Donc, ça n'est pas si symbolique que ça a aussi des conséquences très concrètes sur la vie des Français.
Sur la vie de tous les jours.
Tout à fait.
On a vu quelques boulangeries, malheureusement, qui ont dû arrêter leurs activités. Pas forcément être en faillite, mais arrêter leur activité parce que, tout simplement, elles ne peuvent plus payer les charges en énergie. C'est Quand une boulangerie ferme dans un village, c'est le village qui en pâtit. Il y a aussi un aspect humain, un aspect social, j'allais presque dire sociologique aussi.
Tout à fait, oui, la boulangerie, c'est une tradition française, c'est le mode de vie à la française, il faut le dire. Et vous parliez de boulangeries qui ferment, il y a aussi des boulangeries qui continuent d'exercer, des boulangers qui ne se versent pas de salaire pour justement maintenir une activité. Et donc tous ces dispositifs, je parlais donc du bouclier ou de l'amortisseur, visent à justement rassurer, à aider tout simplement ces boulangers. On parle aussi du report des paiements des cotisations pour les boulangers. Tout ça, évidemment, vise à maintenir cette activité économique essentielle en France.
Alors hier, le président de la République est apparu un peu en colère. Il a tensé les fournisseurs d'énergie en disant « Maintenant, ça suffit, il va falloir qu'on en discute parce qu'on ne peut pas continuer sur une hausse comme ça ». On entend beaucoup de voix aussi qui reviennent un petit peu en boomerang en disant « Bah oui, mais il faudrait arriver à ne plus calquer le prix de l'électricité sur les tarifs du gaz ». Et là, ça pose le problème européen, finalement.
Oui, problème européen, réponse européenne. On a vu que ces derniers mois, l'Europe. Si aujourd'hui on arrive à contenir ces prix, il faut dire aussi que c'est grâce à l'Europe, parce que l'Europe a négocié à 27 des prix avec les pays auprès desquels on achète. Oui, moi je n'ai pas de soucis, je n'ai pas d'inquiétude sur la coopération européenne et l'efficacité de cette coopération.
Mais pour les prix de l'électricité, par exemple, est-ce qu'il faut continuer à les adosser au prix du gaz?
Non, peut-être pas, surtout que les besoins sont sûrement différents et surtout que les sources sont différentes. Le gaz, on l'importe, l'électricité, on la produit pour beaucoup. On peut éventuellement réfléchir à une nouvelle forme de détermination de ce prix, oui, tout à fait.
Alors, on fait la transition écologique, l'environnement, et on en parle beaucoup en ce moment, et c'est une véritable inquiétude avec le réchauffement climatique. C'est aussi produire de l'énergie décarbonée. Alors, évidemment, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, mais quid du nucléaire? Aujourd'hui, il y a un grand débat. Fallait-il démanteler, par exemple, Fessenheim, ou est-ce qu'il fallait continuer à produire du nucléaire et renouveler le parc? C'est, en dehors des dogmes, une question qui se pose.
Elle se pose et je crois qu'elle est vite répondue, comme dirait l'autre. La crise aujourd'hui nous montre qu'effectivement, il fallait maintenir le nucléaire, il faut maintenir le nucléaire, déjà pour assurer notre indépendance vis-à-vis des puissances étrangères, notre autonomie en approvisionnement d'énergie. Mais le nucléaire ne fait pas tout. Vous parliez des énergies renouvelables. Le nucléaire doit arriver en complémentarité, en support, je dirais, de ces énergies renouvelables. Une loi sera votée dès mardi à l'Assemblée nationale, une loi qui avait d'ailleurs requis, requis la quasi-unanimité au Sénat, une loi pour accélérer la production des énergies renouvelables. Mais effectivement, quand les éoliennes ne tournent pas, quand les panneaux solaires ne fonctionnent pas, eh ben, il nous faut une solution de repli. Cette solution de repli, c'est le nucléaire parce que ça reste l'énergie la moins sale, du moins de notre système.
Alors, toujours la crise. Alors, on noircit pas le tableau, mais on est dans un contexte difficile, il faut bien le voir. Crise aussi aux portes de l'Europe avec cette guerre en Ukraine qui a toutes les répercussions que l'on citait précédemment sur nos vies et sur le quotidien. Il y a quelques jours également cette expression du président de la République pour signaler que la France allait livrer du matériel militaire à l'Ukraine. Ça ne fait pas forcément l'unanimité, même au sein de l'armée, où on entend dire que c'est peut-être un peu prématuré. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre ?
Moi, je réponds que l'Ukraine les a accueillis bien volontiers. Ces chars, on parle de chars
notamment. Voilà. Mm-hmm. Alors, de véhicules blindés, m'a dit un collègue militaire, qui m'a dit, c'est pas des chars, c'est un véhicule blindé.
Oui, voilà, on va dire ça. Et puis après, différentes sortes de véhicules blindés, justement. Oui, l'Ukraine les accueille volontiers, et évidemment que ça va être... je crois que c'est indispensable pour... Du moins essayer de contenir ce conflit, et si ce n'est le résoudre, parce que le but c'est bien de le résoudre, ce conflit.
On a vu d'ailleurs les Allemands, les Américains quasiment dans la foulée de la France dire voilà, nous aussi on envoie des équipements, là des chars en l'occurrence, pour essayer de répondre aux frappes de Vladimir Poutine, qui lui-même a demandé une trêve d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez de cette trêve d'ailleurs ?
Cette trêve, elle est, permettez-moi l'expression, un peu hypocrite. Bon, ok, c'est Noël orthodoxe pour eux, mais cette rêve, elle ne doit pas durer deux jours, elle doit durer l'éternité, pour l'éternité, elle doit valoir pour tout le temps. C'est leur stratégie militaire russe, je ne vois pas où ils veulent en venir, mais permettez-moi de dire que c'est un peu hypocrite quand même.
Je le disais en commençant, vous êtes secrétaire des JAM, des jeunes avec Macron. Pour un jeune, je ne me permettrai pas de demander votre âge, mais pour un jeune comme vous, entrer en politique, une guerre en Europe, est-ce que vous imaginiez simplement, quand vous avez fait le premier pas en politique, un jour vous dire, voilà, nous, notre génération, va connaître une guerre ?
Non. Moi, ce qui me frappe surtout dans ce conflit, c'est que c'est un conflit, comme on en a vu au 19e siècle ou au 20e siècle. On envisage, nous, depuis quelques années, des nouvelles formes de conflits, que ce soit sur le terrain cyber ou d'autres terrains.
On en parle beaucoup. Elle est déjà là, d'ailleurs.
Elle est là.
La cyberguerre.
Bien sûr. Et on pensait peut-être naïvement que ça serait le futur de la guerre. Mais non, la guerre, elle nous rappelle que c'est avant tout des hommes qui combattent dans des tranchées, comme à l'époque. C'est assez inquiétant, mais ça nous permet de repenser notre socle de valeurs, notre idéal commun aussi, et prendre conscience que, oui, c'est à 27, en européen, qu'on peut agir sur ces questions-là.
Alors, un rapport de force qui se met en place, un rapport géopolitique aussi plus largement. On parle beaucoup de Taïwan, on parle beaucoup de la Chine, la Corée du Nord, mais ça, c'est presque un lieu commun, allais-je dire. On voit aussi les droits qui ont du mal, les droits pour les femmes, les droits pour les homosexuels, les droits pour les minorités qui ont du mal à percer dans certains pays. Et là, on pense tout de suite à l'Iran. Est-ce que là aussi, c'est une source d'inquiétude pour votre jeune génération de vous dire qu'encore aujourd'hui, on est obligé de se battre pour ces valeurs-là, finalement ?
Oui, ça nous paraît totalement illusoire pour nous qui vivons dans une Europe qui s'est fondée sur les droits humains. Mais c'est aussi l'occasion pour nous d'apparaître comme cette jeunesse qui va accompagner ces luttes pour les droits. C'est à nous d'aller les soutenir, de les supporter. Et c'est à nous, en Européens encore une fois, de montrer l'exemple.
Alors... L'Europe, on l'a vu, a pu s'entendre face à la menace de Poutine avec ces restrictions qui ont été prises et ces sanctions qui ont été prises face à la Russie aujourd'hui. On voit que face au péril, finalement, l'Europe peut fonctionner. Est-ce que là aussi, c'est peut-être... Alors on a un peu noirci le tableau, mais est-ce que c'est peut-être une source d'espoir pour la gouvernance de demain ?
Une source d'espoir, oui et non, parce que s'il faut attendre des crises pour que l'Europe se mette
à fonctionner... Moi, je parlais plus du contexte, du fait de pouvoir arriver à s'entendre, par exemple, face à l'adversité, qui n'est pas forcément une guerre, bien sûr.
Oui, bien sûr, non, mais c'est vrai que c'est un exemple très, très, très parlant de cette communauté d'intérêts qu'on peut avoir, qu'on n'a pas toujours en européen, c'est vrai. Mais les États, oui, sont capables de dépasser leurs intérêts propres, si je puis dire. Et donc, oui, c'est une source d'espoir parce qu'on sait que beaucoup de défis seront relevés à l'échelle européenne et non pas à l'échelle nationale, comme on peut le croire.
Alors, plus largement, on a un monde qui change. On voit les mutations technologiques. Là aussi, la jeune génération dont vous faites partie va accompagner cette mutation. Est-ce que c'est dur de changer de paradigme, de changer d'époque, de changer le monde, hein, si j'ose aller jusque-là ?
C'est dur, oui, c'est exigeant, mais c'est un peu notre devoir aussi, surtout pour nous les jeunes qui commençons la vie, si je puis dire. Il est plus difficile, je pense, encore pour des seniors ou des gens qui se sont installés dans des habitudes et des façons de faire ancestrales peut-être, mais c'est dur pour eux, mais c'est à nous d'inventer cette nouvelle forme de fonctionnement de notre société. Ouais.
Ça veut dire aussi inventer de nouvelles politiques, parce qu'aujourd'hui on est encore dans une politique qui se cherche. On a connu, je ne citerai pas de nom, j'en connais un derrière le micro, qui a connu cette époque où il y avait la droite, la gauche, l'extrême droite, c'était assez... assez défini. On avait aussi le bloc Est-Ouest. Aujourd'hui, on a l'impression d'un monde qui devient très compliqué, y compris du point de vue politique, y compris en France. On a reproché à Emmanuel Macron, d'ailleurs, d'avoir un peu morcelé ce côté politique auquel on est habitué avec des partis qui, aujourd'hui, sont à la peine. On pense à la droite, on pense au PS. Est-ce que là aussi, la mutation va se faire et ce sera difficile aussi?
La mutation, je ne parlerai pas de mutation parce que malgré tout, malgré ce contexte inconfortable, je le disais tout à l'heure, finalement, c'est très clair, le paysage est assez clair. Les extrêmes sont parfaitement clairs sur leur position et leur comportement. Il y a des partis encore dits de gouvernement qui, à défaut de se chercher, ne se trouvent plus, du moins. Mmh. Et je crois profondément que Emmanuel Macron et sa majorité et son gouvernement ont apporté finalement une forme d'éclaircissement en disant face à la gauche, face à la droite, il y a aussi une troisième voie. Il y a une majorité qui est capable de parler à un ensemble de Français beaucoup plus large que les simples partis de gouvernement. Donc non, moi je crois que c'est assez optimiste de voir cette majorité qui évolue depuis presque 6 ans maintenant.
Autre chantier, faire revenir les Français aux urnes, parce que c'est pas évident, on l'a vu lors des dernières élections, l'abstention a battu une fois encore des records. Est-ce qu'on a oublié que la démocratie était fragile finalement ?
Si on l'avait oublié, du moins, on en est rappelé aujourd'hui. L'abstention, évidemment, c'est un sujet majeur. Alors, on arrive dans une période où il n'y aura pas beaucoup d'échéances électorales dans les prochaines années, mais la politique continue. Et donc, l'abstention, elle ne se résout pas que en période d'élection, elle se résout surtout avant. Et je crois, je disais tout à l'heure que, par exemple, le contexte à l'Assemblée nationale impose de mieux travailler sur le fond, davantage se concentrer sur le fond, c'est l'occasion pour les jeunes, pour les Français qui se sentaient un peu déconnectés, un peu loin de la politique, de se raccrocher et de s'intéresser au débat qui s'y passe, qui s'y déroule, pour comprendre que oui, la démocratie, elle fonctionne comme ça et elle fonctionne.
Alors, j'imagine que c'est difficile chaque jour d'être dans la peau d'un jeune qui fait de la politique. Vous arrivez à discuter avec les autres formations, avec les autres jeunes finalement qui sont engagés dans d'autres partis ?
Bien sûr, engagés ou non d'ailleurs.
Non d'ailleurs,
Et surtout avec ceux qui ne sont pas engagés, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'un jeune n'est pas engagé, il n'a pas d'idée, loin de là. Non, c'est ça qui me frappe dans notre génération, c'est que on n'a jamais eu autant de valeurs, d'idées, d'idéaux aussi, mais on ne s'est jamais aussi peu engagé pour les défendre et pour les faire valoir. Donc l'objectif n'est pas forcément de convaincre les jeunes, mais simplement de leur dire mobilisez-vous, vous avez des idées, vous avez des convictions, alors allez-y.
Et les jeunes des autres partis, justement, alors par exemple les LFI ou LR, vous arrivez quand même à échanger, même si c'est pas toujours facile, j'imagine, mais vous arrivez à échanger quand même.
Oui. Alors, dans des cadres, j'allais dire, plus restreints. Effectivement, si vous m'invitez pour faire un débat avec un membre de LFI ou du RN, on n'ira pas, on ira dans le mur. Enfin, on va pas. Ça va être un débat de de faible intérêt, mais dans le cadre privé ou même hors antenne, comme on dit, oui, on a des débats très, très, très sincères et très, très francs et très instructifs. Oui.
Vous le voyez comment l'avenir des quelques mois qui viennent, avec ces turbulences un peu annoncées, turbulences sociales, ça va être difficile là aussi de porter la parole présidentielle ?
Difficile, je ne le crois pas. Nécessaire, évidemment, parce que dans ce contexte autant politique que social, il faudra expliquer, comme vous le disiez tout à l'heure, il faudra faire de la pédagogie. Et c'est notre rôle, et particulièrement chez nous les JAM, d'expliquer ce que fait le gouvernement, là où veut aller le président de la République. Et c'est aussi l'occasion, comme je le disais, il y aura peu d'échéances électorales. Donc c'est l'occasion pour nous, et les JAM s'en saisissent déjà, de travailler sur le fond, de travailler les idées pour construire cet argumentaire encore et participer à la définition du projet politique d'Emmanuel Macron.
Un dernier mot, le sujet qui vous tient à cœur, ou le dossier que vous avez envie de porter ?
Le dossier que j'ai envie de porter, je pense que c'est la justice, sociale, mais la justice aussi institutionnelle, je dirais. Hier, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté un plan pour la justice.
Et qui a été plutôt très bien accueilli, du reste.
Bien accueilli, et avec raison, quand on ne peut que se réjouir de ces mesures. Mais une justice forte, une justice crédible, c'est, je pense, une condition essentielle pour que l'on vive tous ensemble dans un cadre serein.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Victor Craignoux, vous êtes secrétaire régional des JAM Bretagne. Alors les JAM, les jeunes avec Macron, hein, je traduis l'acronyme. Merci infiniment d'être venu en direct ce matin, ce vendredi matin, au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous, bonne journée.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.